Esperanza, un festival en construction.
Bonjour Tiken.
Bonjour.
La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Mali, enfin c'était aussi à Barcelone. Tu voyages encore pas mal entre l'Afrique et l'Europe. Tu as sorti un nouvel album, c'est quoi l'histoire de ce nouvel opus?
L'album s'appelle African Revolution, il est sorti en 2010, septembre 2010. Donc voilà, je réclame la révolution par l'éducation, donc une révolution intelligente. Et une heureuse coïncidence puisque l'album est sorti en septembre 2010 et quelques temps après, les révolutions ont commencé en Afrique noire, qui est une sacrée coïncidence et dont je suis fier, parce que l'Afrique doit absolument faire sa révolution. Si elle veut atteindre le niveau de développement et le niveau de stabilité, il faut absolument passer par un chemin.
Est-ce que tu t'y attendais un petit peu quand même à ces révolutions depuis le temps ?
Oui, je m'y attendais parce que quand je regarde l'histoire de tous les peuples dits aujourd'hui peuples développés ou peuples stables, que ce soit de la France ou des États-Unis ou les pays de l'Amérique latine, ce sont des peuples qui sont passés par des révolutions. Et donc l'Afrique étant dans le même processus de développement et de démocratisation, il n'est pas étonnant que les Africains, après je dirais quelques 50 ans d'indépendance, il n'est pas étonnant aujourd'hui que les peuples africains commencent à réclamer autre chose. Donc moi je m'y attendais un peu. En fait, j'en ai parlé un peu dans la promo de l'album African Revolution, mais c'est positif parce que ce sont ces révolutions-là qui vont changer la manière dont les dirigeants se comportent. Ce sont ces révolutions qui vont pousser les dirigeants à changer de comportement.
Alors musicalement, c'est un album encore plus poussé vers les traditions d'Afrique avec toujours ce reggae qui est derrière. C'est quoi tes inspirations musicales en Afrique ?
Moi, j'écoute beaucoup Salif Keita, j'écoute Alifa Katouré, j'écoute Ami Koita, donc j'écoute beaucoup de musique traditionnelle africaine. Mais l'objectif avec cet album, c'était absolument donner le pouvoir aux instruments traditionnels africains, puisque l'album s'appelle African Revolution, il fallait absolument, absolument donner le pouvoir aux instruments traditionnels. Et donc voilà, c'est un objectif que je visais et que j'ai atteint. Ça a plu à certains. Certains ont trouvé qu'il fallait que je reste dans le reggae classique. Effectivement, je ne me suis pas éloigné du reggae. Il va y avoir du reggae classique, mais les instruments traditionnels africains vont m'accompagner durant toute ma carrière, puisque ce sont ces instruments qui donnent une couleur spécifique au reggae africain. Il faut absolument continuer.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. J'ai dit personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça.
Bon alors, on t'entend beaucoup en ce moment, évidemment, sur ton pays qu'est la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé. C'est un pays qui est encore beaucoup détenu par des entreprises françaises, Bolloré, le port autonome d'Abidjan, Bouygues pour l'eau, etc., etc. Est-ce que tu attends vraiment des décisions de cette nouvelle équipe aujourd'hui qui a été élue, ou est-ce que tu penses que c'est encore une autre révolution qu'il faut mener?
C'est une autre révolution qu'il faut mener, puisque l'équipe actuelle ne pourra pas stopper la France-Afrique, puisque l'équipe actuelle est forcément reconnaissante, restera forcément reconnaissante envers la France-Afrique, à travers les Nations Unies, qui était obligée finalement de déloger Laurent Gbagbo, alors que si le passage, la passation du pouvoir s'était passée dans la tranquillité, dans la normalité, effectivement, on aurait exigé tout de suite que la France-Afrique stoppe. Mais vous savez, la France-Afrique est un truc général en Afrique, et c'est dans l'unité qu'on pourra stopper la France-Afrique. Parce que si une partie est contre, la partie qui est pour gagnera toujours, puisque la France-Afrique est plus armée que nous. La France-Afrique est plus, a plus de moyens que nous. Et nous qui sommes contre elle. Donc, moi j'ai dit, l'unité dans nos pays, l'unité sur le continent, combattra tous les mauvais systèmes qui mettent ce continent en retard.
Est-ce que pour toi, il y a des lueurs d'espoir comme ça en Afrique? Ce qui s'est passé par exemple il y a quelques jours au Sénégal, pour toi c'est quelque chose d'important?
C'est quelque chose d'important, il y a des lieux d'espoir. Vous savez, l'Afrique se trouve dans un processus normal de démocratisation, de développement. Le continent africain sort de 400 ans d'esclavage, de plusieurs années de colonisation. Et je pense que ça fait seulement 50 ans que nous avons été libérés de l'esclavage et de la colonisation. Et donc, la majorité d'entre nous, en tant qu'Africains, ne savent ni lire ni écrire. Aujourd'hui, les jeunes commencent à avoir accès à Internet, donc les mentalités changent. Et moi, je suis optimiste. Je pense que quand l'Afrique aura 100 ans d'indépendance, ça ne sera pas la même Afrique, parce que les peuples seront en majorité alphabétisés. Il y a beaucoup de chances que la jeunesse ait accès à Internet, donc l'Afrique ne sera plus la même Afrique. Nous détenons encore une grande partie de nos matières premières. Donc l'Afrique détient toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. L'uranium du Niger, la Côte d'Ivoire est producteur à 40% de la production mondiale de cacao. Le coton, le Mali a une bonne position. Le Sénégal a une position au niveau de l'arachide, etc. Nous avons tout. Nous avons tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Nous sommes 1 milliard cette année. En 2050, nous serons 2 milliards. En matière de main-d'œuvre, pour les entreprises, nous serons les mieux placés. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison de désespérer. L'Afrique bougera, c'est obligé. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be African education. We want a revolution. Young people revolution, intelligent revolution, must be black people education.
Alors, petite dernière question. L'an dernier, ta carrière musicale a pris un petit tournant puisque tu as signé avec Live Nation en France. C'est une multinationale qui est très décriée, notamment au niveau de la mise aux enchères des artistes dans le secteur du live, ce qui ferait notamment augmenter les places de concert. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre une partie de ton public qui vient te voir parce que les places vont peut-être augmenter?
Vous savez, quand j'ai signé avec Universal il y a quelques années, on m'a dit la même chose. Moi, j'ai dit si je peux utiliser ces multinationales pour accroître ma notoriété sur le plan international. Tant que ces multinationales ne me demandent pas de changer de langage, de message, je pense que tant que les contrats seront établis comme il faut, je ne crains pas grand-chose. Au niveau de mes concerts, bien que ce soit Live Nation, nous discutons très souvent du prix des spectacles. Donc pour moi, il n'y a pas le feu à la maison. Si Live Nation peut me permettre d'être connu aux États-Unis où personne ne me connaît pour le moment, tant mieux. Je dis personne ne me connaît puisque je ne suis pas encore allé en concert pour voir. Je considère que je ne suis pas connu. Mais je verrai en août quand je vais aller en concert. Mais je pense que si je peux utiliser Live Nation ou Universal Music pour que Sarkozy m'entende ou bien que Obama m'entende, tant mieux. Rastafari Tiken Jaffa Koli pour la radio Esperanza.
Radio.esperanza.be.
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
T'as brûlé ma maison d'Abidjan parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné. Mon papa a tant sué. Moi je suis né là. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille. Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Je suis né en bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit donc. Meilleur pédigré, j'avais un beau teint tigré. Flaque, je suis tombé, côté face de la pièce. Pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Moi longtemps, j'ai été pour la loi. Va
pas pour nos ancêtres les Gaulois. Je disais même, pour entrer dans le moule, allez ça roule. Là je suis tombé, côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Alors, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Nous sommes tous nés là, exilés sans autre choix. Nos grands-pères se sont sacrifiés, nos papas se sont intégrés. Même si on nous traite d'étrangers, pourquoi veux-tu qu'on s'en aille? Prends la pagaille, où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Mais où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Donc Laurent Atsou, moi je m'occupe avec Jean-Michel de la thématique, enfin ce qu'on appelait auparavant la thématique. Donc c'est plutôt coordonner les associations qui sont présentes sur le festival et essayer de faire en sorte qu'on présente quelque chose de convenable aux festivaliers, qu'ils ne ressortent pas là non seulement les oreilles pleines mais aussi le crâne plein.
Alors on parle de thématique ou on parle plus de thématique? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, donc pour faire des raccourcis, on dit qu'on reparle de thématique mais on réaborde un fil rouge, si tu veux, donc on peut reparler de thématiques pour simplifier les choses, pour recadrer un peu le contexte. On parle de thématiques, mais c'est plus dans le contexte d'avant, donc ça a beaucoup changé. Donc on a retravaillé beaucoup, tant les gens à qui on travaille, que la manière d'aborder la chose, que l'esprit même de la thématique change. C'est pour ça qu'on parle sans parler de thématique, quoi.
Alors cette année, la thématique, c'est la citoyenneté, c'est ce que nous disait Jean-Michel. Alors lui, il nous a donné une définition, maintenant j'attends la tienne.
Ah ben, citoyenneté, oui, c'est des personnes actives au sein de leur communauté locale, on va dire. Donc ça dépasse le concept qu'on essaie de nous fourrer dans le crâne, qui est de citer citoyen, va voter, essaie de voter intelligent en plus. C'est vraiment dire tous les échelons, que ce soit au niveau local, enfin ça commence par le local, mais aussi au niveau fédéral, national et international, c'est essayer de pouvoir s'impliquer à son niveau dans les choses qui nous intéressent, dans les choses qui nous entourent, et voilà, d'essayer d'être vraiment, être actif et pas juste subir les choses de l'extérieur ou les choses qui nous entourent, mais essayer de participer à la société, à son quartier, à sa famille, qu'on rêve d'avoir, quoi.
Moi, je pensais que juste venir au festival, c'était être citoyen déjà, tu vois.
Mais c'est déjà, effectivement, venir à Esperanza, en tout cas, pas venir à n'importe quel festival, fait partie d'une démarche citoyenne à part entière. De par la démarche même du festival, les gens savent qu'en venant à Esperanza, c'est un festival qui est différent des autres, qui a sa propre identité. Et donc, en venant, c'est quelque part, c'est apporter son soutien à la démarche alternative du festival. Bien sûr, c'est aussi pouvoir tel et tel artiste qui ne se produit pas sur les autres scènes, mais c'est aussi quelque part valider la démarche. Et en ça, oui, c'est faire une démarche active, et c'est pas simplement rester dans son canapé, ouais, ça serait bien, mais non, il faut pas ça, donc j'y vais pas. Mais c'est y aller, essayer de rencontrer d'autres gens qui peuvent être dans le même délire, et de pouvoir ensemble construire quelque chose de différent.
Alors valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens à Esperanza et je signe une pétition et je rentre chez moi?
Non, justement, c'est ça, la méthode active, ça va plus loin qu'une simple signature. Ça peut, la pétition peut avoir ses avantages, c'est un outil parmi d'autres de sensibilisation. Mais non, c'est en venant et en ayant, si tu veux, une démarche un peu plus globale que simplement une signature, donc en faisant des actes. Donc c'est venir discuter premièrement avec les gens qui sont là autour de cette thématique, qui portent cette thématique, donc les différentes associations, c'est discuter avec eux, avoir un échange d'idées, c'est de pouvoir marquer quelque part ces idées d'une manière ou d'une autre. Donc on va essayer de développer quelques idées ludiques, pas nécessairement originales dans le sens où elles ont déjà été appliquées à d'autres années, mais on va essayer de les remettre un peu au goût du jour. Donc c'est de leur proposer de marquer des choix, que ce soit des coups de gueule ou des propositions d'alternatives. Donc c'est de pouvoir déjà faire quelque chose d'actif en plus de venir au festival, de pouvoir faire ce partage d'idées, essayer de collecter, de ramasser toute une série d'idées, ouais, de collectiviser un peu toutes ces idées qui sont soit en place, soit en germination à gauche, à droite.
Alors historiquement, à Esperanza, il y avait des grosses associations, notamment le CNCD qui collaborait étroitement avec le festival. Alors tout ça, ça a changé, ce que nous disait Jean-Michel dans un épisode précédent. Cette année, il y a des petites associations. Est-ce que tu peux nous en citer deux, trois? Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme activité militante au sein du festival?
Il y a un meilleur équilibre, je dirais, tant dans la taille des organisations présentes que dans leur manière de fonctionner. Donc avant, c'est vrai qu'on avait essentiellement des ONG dites Nord-Sud. Et donc c'était en ça que la thématique devenait un peu difficile à exploiter, parce que c'était prendre une thématique lointaine, de la raccrocher à un contexte belge. Et donc parfois, on arrivait à des choses un peu tirées par les cheveux. Mais pour ceux qui étaient dans le milieu, ça restait tout à fait cohérent. Mais pour le grand public, ça devenait parfois un peu compliqué. Et donc là, à partir déjà d'il y a 2-3 ans, on essaie d'un peu de rééquilibrer ça, mais ça s'est fait aussi de manière assez naturelle. Et donc on a une plus grande diversité dans les associations présentes. Donc ce sont déjà pas que des ONG, il y a des SBL, il y a des associations qui travaillent aussi proche du citoyen ou qui sont dans la recherche créative théâtrale. Donc il y a un collectif liégeois qui est assez important qui s'appelle TADA, qui tourne tout autour de vraiment de l'accès à la culture de manière générale et de la contre-culture. T'as aussi des associations qui militent pour le déplacement de la personne à personne réduite, enfin pour faciliter le déplacement de la personne à mobilité réduite. Tu as aussi des associations, qui traitent des problématiques nord-sud, mais qui deviennent très problématiques sud par rapport à la dette, par exemple. Donc il y a toujours le CADTM qui est une organisation qui fait partie des plus anciennes. Tu as aussi des militants qui font partie d'associations comme le Début des Haricots ou Rencontre des Continents, qui eux sont des petites structures qui militent beaucoup pour tout ce qui tourne autour de la consommation responsable et alimentaire. Et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est un peu les deux, trois qui me viennent maintenant à l'esprit. Ce qui est intéressant en travaillant avec ces petites structures, c'est qu'elles sont moins institutionnelles, évidemment, par la force des choses. Et donc ça leur permet une liberté d'action et de création beaucoup plus spontanée et beaucoup plus grande qu'une autre organisation qui dépend de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais qui font que leur mode de fonctionnement en animation ou en festival est moins spontané. Et donc c'est plus un modèle d'animation qui le trimballe comme ça de festival en festival. Là, l'originalité de travailler avec ces gens-là, c'est qu'on peut vraiment créer un projet propre à Esperanza selon les besoins tant de ces assos que du festival en lui-même et de pouvoir répondre aux originalités du festival. Donc quand tu demandes deux, trois idées d'animation militante, on pensait notamment faire des ateliers de désobéissance civile, des ateliers sans trop dévoiler dans les petites surprises, mais aussi faire des ateliers de collage d'affiches ou de création d'affiches pour quand on participe à une manifestation, c'est de pouvoir construire ses slogans, pouvoir construire sa visibilité, pourquoi moi je suis à telle manifestation et pourquoi pas une autre, et quel est mon message dans cette manif. Donc voilà, il va y avoir comme ça des petits ateliers, on va dire éphémères, qui vont avoir lieu, en plus des animations, on va dire un peu plus traditionnelles, qui seront mises en place dans le cadre du village.
Alors justement, toi qui prépares ça avec Jean-Michel en amont, comme tu le disais, on a l'habitude dans les autres festivals, on a les mêmes stands en fait, hein, assez standards qui font le tour de la Belgique et de ces festivals. Est-ce que c'est pas plus difficile cette année quand même pour le festival de porter d'autres envies par des petites structures au lieu de grosses structures comme ça elle a été d'ailleurs jusqu'à maintenant dans le festival?
La difficulté, mais moi je vois même pas ça comme une difficulté parce que c'est pas moi qui porte la responsabilité in fine, mais c'est qu'on a moins de certitude sur ce qu'on va avoir de concret pendant le festival. Donc c'est comme j'ai dit, c'est ce qui rend la chose qui contrebalance, qui fait le côté beaucoup plus agréable, c'est que t'as une partie beaucoup plus grande de créativité, de spontanéité. Donc on a une tonne d'idées sur la table qui est déjà sortie, voir maintenant qu'est-ce qui va réellement se concrétiser et la manière dont ces associations vont pouvoir porter autant de projets, ça va être un peu la surprise. Bon, c'est pas la première fois qu'on travaille avec toutes, il y en a une ou deux, ça va être la première fois, mais il y a quand même un noyau qui a dû au moins travailler une fois ou deux avec le festival, donc ils savent un peu c'est quoi travailler en festival, ils savent un peu les difficultés, les côtés intéressants aussi, les côtés positifs. Donc moi je reste assez optimiste, et puis vraiment le côté réjouissant, c'est quand tu assistes à des réunions, mais t'as vraiment l'impression de participer à quelque chose et de construire tout le bazar de zéro au résultat qu'on verra le week-end du festival, quoi.
Tu as vu l'affiche, les artistes, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu as repéré, des choses que tu as découvertes, est-ce que tu as deux ou trois coups de cœur à faire partager?
Depuis que j'ai intégré l'organisation, ce que j'attends vraiment, c'est de pouvoir justement essayer de créer des endroits de rencontre avec les artistes. Parce que donc Esperanza se vante, ou en tout cas a la réputation d'amener des artistes engagés. Ben donc ce serait bien que le côté engagé se voit autre que dans les textes des artistes, mais se voit aussi dans leurs engagements, dans leurs actes, dans des comportements tout simplement citoyens, en venant à la rencontre des festivaliers, en pouvant discuter avec eux comme ils le font déjà dans le cadre de la radio. Mais s'il y avait moyen de pouvoir exporter ce truc-là dans l'enceinte même du festival, je pense que ça, enfin moi c'est une attente personnelle que je trouve qui pourra apporter un plus tant pour le festival que pour les artistes en tant que tels. Le coup de cœur, bah, il n'y a rien de vraiment très, très révolutionnaire.
T'as pas regardé l'affiche en fait?
Si, je vais pas vous sortir le nom de l'affiche que personne ne connaît, mais moi je suis un grand fan des Ogres, donc c'est toujours un plaisir d'aller les voir sur scène, parce que tant dans leur texte que justement dans leur comportement de tous les jours, c'est vraiment le style d'artiste qui colle. Enfin, je trouve parmi tous les artistes que j'ai pu voir, Esperanza, c'est un de ceux qui colle le mieux à l'identité même du festival. J'ai hâte de voir ce qu'Afrocubisme va donner, évidemment, mais ça c'est vraiment pour le côté plus dansant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait m'intéresser encore? Ah, le nouveau projet de Professeur, ça a l'air vraiment pas mal, j'ai été écouté un peu, j'aime bien le reggae, qui est fait par Groundation. Et puis là, le projet qui porte avec le message sur le conflit israélo-palestinien, ça me touche particulièrement, donc j'ai hâte de voir sur scène qu'est-ce que ça va donner avec le public.
Bon, on se revoit sur le festival alors?
Bien volontiers.
Les coups de cœur d'Ophélie. Coup de cœur d'Ophélie.
Bonjour Ophélie.
Bonjour.
C'est le même bonjour de semaine en semaine, hein, mais c'est quand même mieux qu'au téléphone.
Oui, et puis maintenant je suis toute bronzée, tout on ne peut pas voir ça, mais c'est vrai, tellement reposée surtout.
Alors, cette semaine tu as repéré une artiste ou un artiste? Je crois que c'est une artiste.
Oui, une artiste. Minata, qui est sur la scène Souk, voix chaude, chanson douce, ou parfois rock. Très agréable à écouter. Elle chante en français, en anglais et dans sa langue. Elle vient du Burkina, il me semble. Donc voilà, vraiment un chouette coup de cœur sur la scène Souk.
On écoute ça alors, toujours pareil, pas de chanson en particulier.
Non, pas de chanson en particulier cette fois-ci.
money. Yeah, yeah, pull back, aha. Yeah, yeah, aha. Aha. Aha.